Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Depuis le 10 octobre et jusqu'au 8 janvier 2009, le château de Fontainebleau présente une exposition dédiée à Jérôme Napoléon, roi de Westphalie. Cette exposition, réalisée en partenariat avec les musées du Land de Hesse, a d'abord été présentée du 18 mars au 29 juin dernier à Kassel, siège de la cour de l'éphémère royaume de Westphalie, et avait pour titre Jérôme König Lustig, point d'interrogation, c'est-à-dire le roi joyeux, parce que en effet, le roi Jérôme, petit dernier de la fratrie Bonaparte, est surtout connu pour ses frasques, sa vie joyeuse, son goût immodéré pour l'argent. Mais n'est-ce pas là une image limitée? Qu'en est-il vraiment de son rôle de chef de l'État, de son action à Waterloo ou encore de son rôle sous le Second Empire? Et oui, n'oublions pas que Jérôme est le seul survivant des frères et sœurs de Napoléon lorsque son neveu rétablit l'Empire en 1852. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Jérôme dans cette émission Portrait. Et nous allons redécouvrir, ou découvrir pour certains, cet acteur majeur de l'épopée napoléonienne. Pour évoquer cette figure, j'ai le plaisir de recevoir Jacques-Olivier Boudon, qui vient de publier une biographie du roi Jérôme aux éditions Fayard. Bonjour Jacques-Olivier Boudon.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs, même si beaucoup vous connaissent déjà, que vous êtes professeur d'histoire de la Révolution et de l'Empire à l'Université Paris-Sorbonne et président de l'Institut Napoléon. Avant de parler de Jérôme directement, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce personnage ?
Je me suis intéressé à Jérôme parce que on m'a demandé, à l'origine c'est ce qui s'est passé, on m'a demandé de réfléchir à une biographie d'un des personnages de l'épopée napoléonienne. Il était hors de question de travailler directement sur Napoléon, donc j'ai songé à un de ses frères. Et en regardant la bibliographie des titres sur les frères ou sœurs de Napoléon, je me suis aperçu que Jérôme était sans doute un de ceux qui avait été le plus maltraité. Alors, il y a des biographies. Mais il n'y en a aucune, par exemple, publiée depuis l'ouverture des archives de la famille Napoléon aux archives nationales, enfin le dépôt des archives de la famille Napoléon aux archives nationales, archives qui avaient donc été très peu consultées pour les biographies antérieures. Et je me suis dit qu'il y avait là un intérêt à redécouvrir cette masse documentaire, en la complétant bien sûr par d'autres sources. Et donc je me suis lancé dans cette aventure. Je parle d'aventure parce que c'est un personnage qui est assez complexe, qui n'est pas toujours facile à saisir, à cerner, qui n'est pas toujours très sympathique au premier abord. Et donc il a fallu passer pas mal de temps avec lui et essayer de découvrir toutes les facettes du personnage pour mieux en rendre compte.
Vous avez en effet passé pas mal de temps avec lui, puisque je crois que ça fait un certain nombre d'années que vous avez commencé votre travail.
Voilà, c'est une recherche qui a finalement s'était étalée sur une petite dizaine d'années. Bon, il est vrai que pendant ces 10 ans, j'ai fait autre chose, j'ai écrit d'autres livres. Mais enfin, il est resté, il m'a accompagné pendant près de 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai lu, je suis allé aux archives dans différents endroits, parce que je suis allé jusqu'à Saint-Pétersbourg pour dénicher des archives sur le royaume de Westphalie. Je suis allé à Berlin. Bon, donc je me suis un peu promené. Et il m'a accompagné effectivement pendant ces années-là, qui sont aussi des années, ça correspond tout à fait aux années de la commémoration du bicentenaire de l'Empire. Et on arrive, finalement c'était presque inévitable, à la publication de ce livre au moment où on célèbre la fondation, le bicentenaire de la fondation du royaume de Westphalie, dont il a été le souverain pendant cinq ans.
Voilà, alors donc nous allons commencer tout d'abord, je dirais, par la naissance, puisque Jérôme est donc le dernier frère de Napoléon Ier. Il naît en 1784. Il ne va quasiment pas connaître son père, puisque son père meurt il y a à peine quelques mois. Et ses frères aînés, eux, ont quitté la Corse pour aller étudier sur le continent. Donc, dans quelles conditions se passent ces premières années de Jérôme en Corse ? Quelle éducation va-t-il recevoir ?
On ne sait pas grand-chose de l'éducation, de la première éducation de Jérôme, puisqu'il reste en Corse donc de 1784 jusqu'en 1793. Il n'a que 9 ans lorsqu'il quitte l'île, fuyant la Corse de Pascal Paoli avec ses frères et sœurs, sa mère, etc. On peut supposer néanmoins qu'il reçoit l'éducation classique d'un jeune enfant, d'un jeune fils d'une famille de notables, de petits notables de la Corse de l'époque, c'est-à-dire qu'il apprend les rudiments de lecture, d'écriture. Il est entouré d'un milieu où il y a beaucoup de femmes, sa mère, ses sœurs, sa grand-mère, où il y a des ecclésiastiques également, en particulier son grand-oncle, l'archidiacre Lucien. Et puis, il y a des frères qui sont plus ou moins présents, en particulier Napoléon lui-même, qui revient régulièrement en Corse pendant ces années-là et qu'il apprend à connaître. Et incontestablement, Napoléon Bonaparte va être attendri par ce jeune frère qui a 15 ans de moins que lui et qu'il va ensuite protéger, puisque Napoléon est celui qui va aider Jérôme, le faire venir à Paris une fois qu'ils seront sur le continent et organiser sa scolarité. À partir de ce moment-là.
Oui, alors la scolarité de Jérôme, c'est quelque chose d'un peu mouvementé, j'allais dire, oui, puisque comme vous venez de le rappeler, la famille quitte la Corse, est obligée de quitter la Corse en 1793. La France, à ce moment-là, est en pleine révolution. Et toute cette agitation, quelque part, rejaillit sur la formation de Jérôme.
Oui, quand il arrive en France, donc avec sa famille, il va débarquer à Toulon. Toulon qui, quelques semaines après, est prise par les Anglais. Il y a cette révolte royaliste qui fait passer Toulon dans les mains des Anglais. C'est cette même ville qui va être ensuite reconquise, en particulier par Napoléon Bonaparte. Enfin, il n'est pas le seul, mais il participe à la reconquête de la ville à la fin de l'année 1793. Mais auparavant, Jérôme a pu assister à des troubles, à des émeutes jacobines dans la ville. Et il arrive dans un pays, la France, qui est un pays en pleine révolution. 1793, c'est le début de la période de la terreur, du gouvernement des Montagnards, de Robespierre, etc. Donc, il vit dans cette atmosphère et il apprend, même s'il n'a que 10 ans, il apprend à connaître ce qu'est la révolution. D'ailleurs, il en parlera beaucoup plus tard à ses enfants et on a un témoignage de son fils, le fameux Plomplon, qui en parle un siècle plus tard, quasiment dans un livre qu'il publie à ce moment-là. Donc, une fois ces épreuves passées, il s'attache à son frère Napoléon, comme je le disais, et il va lui demander de le faire venir à Paris. Napoléon s'est alors installé en 1795 à Paris, et le jeune Jérôme arrive dans la capitale. Il vient en compagnie d'un général, qui est le général Augereau, et il va s'installer à Paris, et il est envoyé très exactement, donc à la fin de 1795, dans une pension qui a alors la cote. C'est le moment aussi où toutes les institutions scolaires ont été déstructurées par la Révolution. Et puis, il y a quelques pensions qui renaissent, dont une pension qui a été créée par un Irlandais qui s'appelle MacDermot, à Saint-Germain, tout près de l'institution réservée aux filles de Madame Campan. Et finalement, Saint-Germain devient le lieu où l'on envoie ses enfants quand on appartient à la bonne société parisienne, en tout cas à la société politique, aux élites politiques de l'époque, puisqu'il y a aussi dans cette pension quelqu'un comme Eugène de Beauharnais, le fils de Joséphine et du général de Beauharnais. Donc il arrive dans cette pension et il va y rester quelques mois jusqu'à la campagne d'Italie. Alors ensuite, au moment de la campagne d'Italie que son frère dirige en 1796-97, il a l'occasion de se rendre à Mombello, c'est-à-dire à côté de Milan, pour suivre son frère et sa famille. À son retour, il est engagé dans une autre pension qui est le collège de Juilly, qui lui est une institution prestigieuse d'Ancien Régime qui a été reconstituée par d'anciens oratoriens, mais pas plus qu'à Saint-Germain, il n'est un élève très brillant.
Très assidu. Oui.
Il n'est ni assidu, enfin, de toute manière, il est quand même obligé d'aller au cours, mais enfin, il n'est pas très brillant. On le voit d'ailleurs à ses lettres de jeunesse qui sont dans le fond des archives Napoléon que j'évoquais tout à l'heure. Il fait beaucoup de fautes d'orthographe, il a une langue très approximative, il est fâché avec le calendrier, bon, il n'est sans doute pas le seul, avec le calendrier républicain, ce qui rend pas toujours facile la datation de ses correspondances parce qu'il se trompe d'année. Bon, il aspire surtout à une chose, c'est venir à Paris, faire la fête, parce que quand son frère Napoléon n'est pas là, c'est Joseph qui s'occupe de lui, il y a ses sœurs, Caroline, etc. Donc, bah, il sent qu'il se passe beaucoup de choses à Paris, qu'il y a du mouvement, des fêtes, des bals, et il a envie d'y participer.
Oui, et 1796, c'est la date du mariage aussi de Napoléon avec Joséphine.
Oui.
Et là, très vite, il va sympathiser avec Joséphine et justement s'entendre assez bien avec sa belle-sœur qui lui fait profiter de toute cette ambiance de fête. Et donc, dès le départ, Jérôme se montre en effet plus séduit par cet aspect-là.
Oui, et alors ça va se prolonger surtout au moment du consulat, parce que il va appartenir à ce petit groupe qui se retrouve à la Malmaison autour de Joséphine, de Gênes, d'Hortense et d'autres. Il y a aussi Bourrienne, enfin il y a tout un groupe. Ce sont des jeunes gens, ils ont moins de 20 ans pour la plupart, donc ils s'amusent, ils jouent, ils font du théâtre. Il y a vraiment une ambiance très festive. Et Jérôme, dès cette époque, découvre la vie de plaisir.
Mais alors, Bonaparte, enfin Napoléon ne l'entend pas, lui, de cette façon-là, et va vouloir que son frère, enfin remettre son frère dans le droit chemin, si j'ose dire, et qu'il reçoive une formation militaire. Et
de... Effectivement, après le 18 Brumaire, donc, Jérôme a accompagné son frère, d'abord au Luxembourg, et puis il s'installe aux Tuileries, comme Napoléon. Il fait des dépenses impensables, mettant ça évidemment sur le dos de Napoléon, qui commence à en avoir assez. Puis il est intégré à la garde consulaire, ce qui est tout de même une preuve de la volonté de Napoléon de l'associer à son pouvoir. Et puis, il se bat en duel. Alors, la plupart des biographies, ça m'avait étonné au départ, disent avec le jeune frère du futur maréchal Davout. En réalité, ce jeune frère n'a que 3 ans de moins que lui et est déjà colonel. C'est donc pas un blanc-bec, c'est pas un premier venu. Il a fait la campagne d'Égypte. Bon, ils ont un différend, ils se battent en duel et Jérôme va même écoper d'une balle que l'on retrouvera, dit-on, à travers l'autopsie, dans le sternum au moment de sa mort. Donc il va vivre pendant toute sa vie avec cette balle. Mais pour Napoléon, qui est très hostile au duel, pour Napoléon, c'en est trop et il l'envoie donc faire ses classes dans la marine.
Oui, et quel choix d'ailleurs. Pourquoi Napoléon le destine-t-il à la marine ?
La marine, parce que l'armée de terre, l'infanterie, l'artillerie, c'est lui. L'infanterie, ou en tout cas tout ce qui est armée de terre, il y consacre lui. La diplomatie, c'est Joseph. La politique, c'est Lucien, qui est alors ministre de l'Intérieur, qui a été ministre de l'Intérieur. Donc il reste le secteur de la marine. Et je pense que Napoléon a déjà dans l'idée de répartir un peu les différents domaines de compétences qui sont utiles à la gestion de la France entre ses différents frères, donc la marine à Jérôme. Alors évidemment, ça fait sourire quand on connaît l'histoire de la marine sous l'Empire, quand on sait ce qui s'est passé à Trafalgar, etc. Mais en 1800, lorsqu'il l'envoie dans la marine, Napoléon a un vrai projet maritime, il a une véritable volonté de constituer une marine puissante, il a un véritable projet méditerranéen s'appuyant sur l'Italie en particulier, il n'a pas encore renoncé à l'Égypte où une armée française est encore présente et donc il espère pouvoir reconstituer une Méditerranée française et donc pour lui ce projet maritime, ce projet de refonder une marine est tout à fait important. Jérôme s'inscrit dans ce projet, évidemment il va faire ses classes, il est envoyé comme enseigne de vaisseau. Il va participer à plusieurs campagnes, alors notamment en Méditerranée, où il est chargé d'aller ravitailler l'Égypte et d'apporter des troupes avec son escadre en Égypte. Enfin, il participe à l'escadre qui est chargée de cela. C'est un échec, ils ne parviendront même pas à débarquer les troupes prévues. Et Jérôme est assez amer. Il a aussi une certaine lucidité sur les capacités de la marine française. Il écrit à son frère Lucien, par exemple, que les officiers sont des incapables et que les marins ont insuffisamment de pratique pour pouvoir correctement naviguer. Donc il y a plusieurs épisodes qui le démontrent. Bon, en même temps, il participe à différents événements. Par exemple, il participe à la prise de l'île d'Elbe. Petit clin d'œil à l'histoire, puisque cette île d'Elbe verra ensuite Napoléon arriver en 1814. Donc il se promène en Méditerranée. Puis surtout, l'année suivante,
il part aux Antilles.
Il est intégré à la fameuse expédition qui part vers Saint-Domingue. Pour reconquérir Saint-Domingue, donc la France a signé les préliminaires de Londres avec l'Angleterre, ce qui ouvre la liberté des mers et Napoléon a décidé d'envoyer cette expédition qui est commandée par son propre beau-frère, donc le général Leclerc. Sa sœur Pauline est également du voyage et Jérôme accompagne l'expédition comme marin et il va donc participer à quelques combats à Saint-Domingue. Il est peu associé à l'expédition elle-même, puisque très vite, il est renvoyé en Europe pour rendre compte des premiers résultats de l'expédition. Et quand il revient, ensuite, à la fin de l'année 1802, on le tient à l'écart. Entre-temps, le général Leclerc est mort de la fièvre jaune et l'expédition se passe
Jérôme en profite pour découvrir les îles, rendre visite à la mère de Joséphine. Enfin, il va séjourner quelque temps quand même.
Il séjourne, plusieurs mois dans les Antilles. Il fait une inspection. En réalité, une inspection des différentes colonies françaises. Il se rend bien sûr sur le domaine La Pagerie. Et puis surtout, il rencontre toute une série de personnages dont certains vont jouer un rôle important dans la suite de sa carrière, en particulier le fameux Le Camus, qui va devenir son bras droit, son secrétaire, son confident, et qui, dans les années suivantes, y compris dans le royaume de Westphalie, jouera un rôle tout à fait essentiel. C'est un peu son âme damnée aussi, il faut bien le dire, que ce Le Camus. Donc, il procède à cette visite qui laisse là encore penser que Napoléon songe à lui pour diriger le secteur de la marine et des colonies, puisque les deux sont liés dans la gestion des affaires maritimes et coloniales.
Alors en 1803, c'est la rupture de la paix d'Amiens. Et là, Jérôme peut espérer d'obtenir un commandement s'il rentre en France, parce que ça suppose donc la lutte à nouveau contre l'Angleterre. Donc il envisage de rentrer en Europe. Mais au dernier moment, il décide de faire une petite escale, une escale aux États-Unis. Et celle-ci va se prolonger et surtout avoir de lourdes conséquences pour lui.
Il a envie d'aller voir les États-Unis. Il est tout prêt, il est aux Antilles. Et puis, il sait aussi que Napoléon avait songé à un empire caraïbe, à un empire au centre de l'Amérique avec la Louisiane, qu'on vient néanmoins de vendre. Donc, il a envie de voir les États-Unis. Les États-Unis, c'est une jeune démocratie, puisque l'indépendance a été acquise définitivement en 1783. Donc, ça fait 20 ans seulement au moment où Jérôme se présente aux portes de ce pays. Et malgré les avertissements de ses supérieurs, qui lui disent de rentrer en France, il décide de passer aux États-Unis. Il abandonne son navire, lequel d'ailleurs est pris par les Anglais qui sont très contents d'avoir capturé Jérôme, voilà. Enfin le croit-il. On l'annonce dans la presse londonienne, en réalité il n'est pas sur son navire. Il est monté sur un bateau américain et il va débarquer aux États-Unis. Et là, donc contre l'avis de Napoléon, de ses supérieurs, et là se produit un événement qui va compter beaucoup dans sa vie. C'est un véritable coup de foudre pour une jeune femme qu'il rencontre ou qu'on lui fait rencontrer. Car il ne faut pas être dupe aussi des arrangements, mais de la façon qu'on a pu avoir de le mettre en relation avec cette jeune femme. Elle s'appelle Elisabeth, elle est superbe, elle habite Baltimore, c'est la fille d'un négociant qui s'est beaucoup enrichi à cause justement de la Révolution, des guerres dans les Antilles, etc. Et il est tellement amoureux qu'ils finissent par se marier contre la vie de la famille, Napoléon, qui, quand elle apprend cette nouvelle, désapprouve Jérôme. Et Napoléon va même obtenir que le mariage ne soit pas reconnu. Il demande à sa mère de faire un acte disant qu'elle n'admet pas ce mariage entre Jérôme et Elisabeth Patterson, c'est son nom, qui donc sera cassé.
Donc Jérôme reste 2 ans aux États-Unis et là, donc Napoléon est sur le point d'établir l'Empire. Et là, Jérôme se dit qu'il est temps qu'il rentre pour profiter de ce que pourrait lui offrir un empire.
Oui, parce que pendant qu'il est aux États-Unis, donc entre 1803 et 1805, il se passe des événements en France. Napoléon a été couronné empereur le 2 décembre 1804. Ses frères, sauf Lucien et sœurs, ont largement participé des distributions. Ils sont faits princes français, s'enrichissent inévitablement. Et Jérôme reste à l'écart de tout cela. Donc il décide de rentrer en France. Il est vrai aussi que Napoléon ne cesse de lui réclamer de revenir en France sur un navire français, dit-il, sur un vaisseau français. Il ne veut pas qu'il rentre par la petite porte. Alors plusieurs tentatives sont organisées. Et finalement, Jérôme revient au printemps 1805 en Europe avec sa femme, Elisabeth Patterson, ou devenue Elisabeth Bonaparte.
Enceinte.
Enceinte, effectivement. Et lorsqu'ils abordent au large de Lisbonne, Napoléon, qui a été mis au courant, donne l'ordre à Jérôme de descendre, de débarquer seul et de renvoyer sa femme aux États-Unis.
Jérôme, il faut préciser, était quand même très attaché à Elisabeth Patterson, donc lui dit qu'il va se rendre auprès de Napoléon pour essayer de défendre sa cause. On a l'impression qu'il y croit même. Et elle, donc interdite de séjour, ne pouvant pas débarquer au Portugal, part à Amsterdam et finalement ne reverra plus Jérôme à ce moment-là et repartira vers les États-Unis.
Alors, oui, la police a reçu l'ordre de ne pas la laisser débarquer. Et y compris en Hollande, la Hollande est alors république sœur, la République batave, dirigée par Schimmelpenninck, qui reçoit aussi l'ordre de l'empêcher de débarquer. Il y a même une tempête qui va repousser le bateau et finalement, elle repart vers Londres, elle va accoucher en Angleterre et ensuite rentrera aux États-Unis. Alors effectivement, Jérôme reste attaché et il lui envoie des lettres à ce moment-là. Il est toujours amoureux d'elle et ce lien ne va jamais totalement se distendre. Ce qui est très frappant, c'est de voir que, alors qu'elle est repartie aux États-Unis, donc avec son fils, il tente de la faire venir, quand il est roi de Westphalie, il tente de la faire venir en Westphalie. Il essaye aussi de faire venir son fils. Et plus étonnant encore, Napoléon envisage de faire venir le fils de Jérôme, pas Élisabeth, lui, il ne veut évidemment qu'elle réapparaisse, mais il veut faire venir le fils de Jérôme parce qu'il n'a qu'une crainte, c'est que les Anglais s'en emparent. Il y a toute une stratégie complexe que je décris où les Anglais veulent récupérer le fils de Jérôme parce qu'évidemment, élever le fils de Jérôme à Londres, ça aurait quand même, ça ferait de l'effet, puis ça serait faire un peu la nique, si vous me passez l'expression, à Napoléon. Donc, ils ont tenté cela. Et puis, les deux amoureux se reverront ensuite pendant la période de l'exil, mais ça, c'est une autre histoire. Entre-temps, le mariage non seulement a été cassé, mais il a été aussi annulé sur le plan religieux par l'officialité de Paris, qui en l'occurrence fait ses gammes, fait ses armes, avant d'opérer et de procéder au divorce de Napoléon et de Joséphine 3 ans plus tard.
Alors pour l'heure, donc, Jérôme est de retour auprès de l'empereur, et il en profite d'ailleurs au passage pour découvrir les plaisirs de la fête impériale, mais ça sera pour une courte durée, puisque Napoléon le renvoie très vite à nouveau faire ses preuves sur la mer.
Il repart en mer, et en particulier il fait une grande expédition dans le sud de l'Atlantique, où il va croiser, là encore, petit clin d'œil, au large de Sainte-Hélène, puis passer par le Brésil, le nord de l'Atlantique, et il revient à l'été 1806, et là, il est embarqué dans l'aventure de la campagne contre la Prusse en 1806, c'est-à-dire qu'il a été promu contre-amiral, fait prince français au passage, il a enfin réussi à obtenir ce titre, et il est propulsé général de division et commandant d'un corps d'armée en Silésie à partir de 1806, c'est-à-dire qu'il est chargé, dans le cadre de la campagne contre la Prusse, de s'emparer de cette province anciennement autrichienne qui est réputée imprenable parce qu'elle a des places fortes très fortement défendu. Et il va y parvenir.
Donc c'est la première expérience de Jérôme en tant que commandant en chef. Que faut-il retenir de cette expérience ? Dévoile-t-il un talent militaire particulier ?
On ne peut pas dire que ce soit un grand stratège. Il a été surtout secondé par des généraux compétents, en particulier le général Vandamme ou Lefebvre Desnouettes, qui est son chef d'état-major. Bon, lui manifeste plutôt de l'intérêt pour la gestion de la conquête, y compris sur le plan matériel, mais on ne peut pas dire qu'il a été un véritable chef de guerre. Enfin, il s'en est tiré
bien
honorablement.
Tiré, ouais.
Oui, il s'en est tiré honorablement.
Puisqu'en tout cas, aux yeux de Napoléon, la campagne de Silésie marque la fin de la formation de Jérôme, si j'ose dire. Et l'empereur est enfin prêt à l'utiliser dans son système politique. Et c'est ce que nous verrons dans une seconde partie après une courte pause. Je vous rappelle que nous sommes avec Jacques-Olivier Boudon et que nous évoquons la figure du roi Jérôme.
Le maestro Rostropovitch, violoncelliste et chef d'orchestre, membre associé étranger de l'Académie des Beaux-Arts, nous avait reçus au printemps 2006 dans ses appartements parisiens. Il nous a parlé de musique russe et de création contemporaine. Il raconte son amitié avec Shostakovich, Prokofiev et Dutilleux. Il commente l'évolution de l'école russe de violoncelle et il explique sa façon de choisir ses instruments et de diriger un orchestre. Cet entretien exclusif est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy. Je reçois Jacques-Olivier Boudon, auteur d'une biographie du roi Jérôme. Nous venons de nous intéresser aux années de formation de Jérôme. Nous sommes en 1807, à la fin de la campagne de Silésie. Napoléon fait alors entrer Jérôme dans un système napoléonien. Il décide d'abord de marier Jérôme et de lui confier un royaume, ou mieux, il lui crée un royaume, le royaume de Westphalie. Mais revenons peut-être, Jacques-Olivier Boudon, d'abord sur la question du mariage de Jérôme avec Catherine de Wurtemberg.
Alors ce mariage avait été envisagé dès 1806, mais il est repoussé à cause de la campagne de Prusse et finalement il intervient en août 1807 avec cette jeune femme Catherine, donc fille du roi de Wurtemberg, que Jérôme ne connaît pas, mais ça c'est assez traditionnel à l'époque et dans ses mariages. Et on peut dire que ce mariage s'inscrit dans la politique matrimoniale de Napoléon qui vise à consolider les alliances entre sa propre famille et les familles régnantes en Europe. Il a déjà procédé au mariage d'Eugène de Beauharnais avec Augusta de Bavière. Il a procédé également au mariage de Stéphanie de Beauharnais, donc une cousine de Joséphine, avec l'héritier du duché de Bade. Et là, donc, il procède à ce mariage avec Catherine de Wurtemberg, qui est un mariage entre deux personnages qui ne se ressemblent pas du tout. Autant Jérôme est un jeune homme extrêmement volage, autant Catherine va s'affirmer une femme extrêmement fidèle. Et ce contraste
est déjà physique, d'ailleurs.
Et le contraste est également physique, puisque elle a plutôt l'allure d'une jeune femme. Elle est assez ronde, bien en chair. Lui est beaucoup plus élancé, beaucoup plus mince. On le voit évidemment sur les tableaux qui sont alors réalisés des deux époux.
Mais pourtant, ce mariage va être heureux quelque part, puisque en tout cas, Catherine sera très attachée à son époux.
Oui, Catherine restera très attachée à son époux. Elle va beaucoup lui être utile, beaucoup le servir d'une certaine manière, et peut-être plus encore après la période du royaume de Westphalie, notamment dans l'exil. C'est un couple qui a des côtés attachants par cela. En même temps, il faut reconnaître que pendant toute la première période, on peut dire qu'il y a deux périodes dans l'histoire du couple, toute la période de la Westphalie, le couple reste sans enfant et il faudra attendre l'exil, premier exil en France et surtout après en Italie, en Autriche et en Italie, pour que le couple ait trois enfants. Alors c'est assez étonnant de voir cette différence, mais c'est vrai qu'ils ont entretenu jusqu'au bout des liens de tendresse, sans doute d'amour aussi, en tout cas pour Catherine à l'égard de Jérôme, ça est incontestable.
Alors mais revenons donc à la Westphalie, et à quoi correspond ce royaume que crée Napoléon en 1807 ?
C'est un royaume qui est fait de plusieurs morceaux et en particulier qui regroupe les possessions de la Prusse à l'ouest du fleuve l'Elbe. Ces possessions qui ont été prises à la Prusse à la suite des défaites de l'année 1806-1807 et sanctionnées par les traités de Westphalie de juillet 1807. Donc c'est un état qui a une allure un peu curieuse, un peu biscornue, qui est au nord-ouest de l'Allemagne, qui compte environ 2 millions d'habitants, donc ça n'est pas un état très important, mais c'est un état dont Napoléon veut faire une sorte d'état modèle pour les autres états de la Confédération du Rhin. Et c'est pourquoi il envoie avec Jérôme toute une équipe d'administrateurs. Il donne à Jérôme une constitution qui a été rédigée dans l'entourage de Napoléon, en particulier par Cambacérès et Regnault de Saint-Jean d'Angély, constitution qui a pour objectif d'importer en Westphalie les principes de la Révolution de 1789, l'égalité civile en particulier, et puis le principe constitutionnel, puisque sur le modèle français, ce pays hérite d'une constitution.
Mais finalement, la marge de manœuvre de Jérôme est assez limitée, puisque d'ailleurs, je vous cite, vous dites « Napoléon a certes confié le royaume à son frère, mais il l'envoie en Westphalie comme un préfet dans un département français. »
De fait, Jérôme est soumis à une série de contrôles qui font qu'il n'a pas les mains totalement libres. D'abord, il a à ses côtés des ministres qui sont des administrateurs français mis en place par Napoléon. Ensuite, il doit tenir compte, il a l'œil, j'allais dire l'œil de Moscou, en tout cas l'œil de Paris, en la personne de l'ambassadeur Reinhardt qui observe ses faits et gestes. Et puis surtout, il y a le contrôle par Napoléon lui-même qui lui écrit des lettres où il lui donne des consignes, où il remet en cause des choix qu'il a pu faire, y compris sur les nominations. Napoléon est très très sourcilleux sur tout ce qui concerne les nominations du personnel. Et donc, Jérôme a une marge de manœuvre très limitée. Et puis surtout, il a une marge de manœuvre limitée parce qu'il n'a pas, il ne dispose pas de finances très importantes. Une grande partie du budget du royaume est consacrée à payer l'indemnité de guerre, à verser les revenus dus aux possesseurs de domaines octroyés par Napoléon. Donc il y a toute une série de maréchaux qui ont obtenu des biens en Westphalie. Et donc le budget est sans cesse en déficit, ce qui va obliger Jérôme à trouver des expédients, à emprunter, à augmenter les impôts. Enfin, il est vraiment dans une situation à ce niveau-là qui est très difficile. Et en plus, c'est un très grand dépensier.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire quand même, il faut peut-être parler des deux faiblesses, je dirais, de Jérôme, puisque la cour de Westphalie va être somptueuse. Et une des choses que j'ai découvertes dans votre livre, c'est que Catherine a participé aussi quand même à la dépense. Je dirais, je l'imaginais beaucoup plus sage, je dirais, de ce côté-là, mais elle soutenait son époux.
Elle est peut-être même plus dépensière que lui. En tout cas, elle ne regarde pas à la dépense. Et les fêtes dans ce royaume et dans cette cour de Cassel, donc avec des déplacements, la cour est à Cassel une partie de l'année. Elle est également dans le château de Napoléon II, c'est-à-dire la résidence d'été. C'est une cour donc fastueuse. Les observateurs ont critiqué, évidemment, disant que Jérôme voulait singer la cour de Paris, mais il y a un peu de ça. Et dans une Allemagne qui est plutôt austère, traditionnelle, personnellement, cela surprend, mais en même temps séduit, parce qu'il faut bien se dire que si cette cour a fonctionné, s'il y a eu des bals, s'il y a eu des spectacles, c'est parce que les élites allemandes, l'aristocratie allemande a suivi. S'il n'y avait eu personne à toutes ces fêtes, bien entendu, ça n'aurait pas marché. Donc il y a un accord général autour de cette vie de plaisir, et puis c'est une cour qui est jeune. En 1807, lorsque Jérôme arrive en Westphalie, il a 23 ans. Et quand il quitte la Westphalie en 1813, il en a 29. C'est-à-dire qu'il est plus jeune lorsqu'il quitte la Westphalie que Napoléon lorsqu'il arrive au pouvoir. Donc il faut mesurer, c'est une cour extrêmement jeune où on aime faire la fête, on aime s'amuser, on aime danser. On aime aussi, c'est un des aspects de Jérôme, enfin, il aime particulièrement les femmes et va s'affirmer particulièrement volage, puisque au dire de l'ambassadeur, qui évidemment est peut-être de parti pris, mais au dire de l'ambassadeur, à part les plus âgées des femmes de la cour, toutes avaient subi les assauts du roi Jérôme.
Mais alors, cette image du roi Jérôme est assez connue. Et je voudrais quand même qu'on dise deux mots du chef de l'État qui a été Jérôme, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il a pris sa mission très à cœur et qu'il s'est appliqué, je dirais, dans sa mission.
Oui, parce que malgré les difficultés, les entraves, les contrôles, il répond à l'attente de Napoléon en étant ce roi réformateur, en s'attachant à développer toute une série de réformes. Alors, bien entendu, il est encadré, il est entouré par des ministres, des collaborateurs, mais il imprime sa marque, il réunit régulièrement les ministres, il donne son point de vue. Il est travailleur également, on le voit, ça n'est pas parce qu'il fait la fête qu'il ne travaille pas, on le voit beaucoup travailler et il impressionne de ce point de vue les ministres, par exemple Beugnot qui est ministre des Finances, et il engage toute une série de réformes. En fait, ces réformes, elles sont calquées sur le modèle français, réforme de l'administration avec l'instauration des départements, des préfets, réforme de la justice, réforme des finances, de la fiscalité, réforme de l'éducation, enfin tous les secteurs y passent et il est aussi celui qui introduit dans un pays qui a été longtemps dominé par les clivages religieux, il introduit le principe de la liberté religieuse. Il joue un rôle très important dans la liberté octroyée aux Juifs, qui d'ailleurs lui en seront très reconnaissants puisque beaucoup de Juifs d'Allemagne arrivent en Westphalie, terre de liberté. Donc il y a de nombreux aspects de ce Jérôme réformateur.
Alors l'expérience du royaume de Westphalie va être brève, puisque dès 1810, d'ailleurs, Napoléon ampute le royaume d'une partie de son territoire, ce qui va être très mal vécu par Jérôme. Et en 1813, c'est l'effondrement déjà. Et on a l'impression que quand même, Jérôme n'était qu'un pion dans le système de Napoléon.
L'exemple de 1810 est frappant, c'est que dans un premier temps, Napoléon donne à Jérôme le Hanovre. Donc c'est un grand territoire au nord, ancienne possession anglaise, qui était occupée par militairement. Et puis ensuite, il trace un trait, c'est au moment où il a occupé la Hollande et transformé la Hollande en département français, il trace un trait pour que toute la côte de la mer du Nord devienne française et ampute la Westphalie d'une partie du Hanovre qui lui a été confiée, mais aussi de territoire qu'elle avait depuis 1807, ce qui est remettre en cause le pouvoir et l'autorité de Jérôme, qui avait essayé de constituer un lien avec les populations par ses voyages, par toute une série de relations avec son peuple. Et là, du jour au lendemain, on lui signifie qu'en gros, il n'est qu'un administrateur, qu'un super préfet, et que c'est Napoléon qui décide, y compris des frontières du royaume.
D'ailleurs, pouvons-nous dire deux mots des rapports entre Napoléon et Jérôme ? Vous parlez d'une répartition des rôles qui s'est établie entre eux, entre un jour la colère, un jour, au contraire, ils sont très attachés quand même l'un à l'autre.
Ils ont des rapports quasiment de père à enfant. C'est assez frappant. Napoléon réagit vis-à-vis de Jérôme, non pas comme si c'était son frère, mais comme si c'était son fils. Et en même temps, Jérôme sait qu'il n'est pas le fils de Napoléon. Donc il y a une relation complexe, effectivement faite de mouvements d'humeur et de rapprochement. Jérôme est associé à tous les grands événements du règne. Il est présent au mariage de Marie-Louise, au baptême du prince impérial. Il est souvent consulté par Napoléon. Et en même temps, il reçoit des lettres, mais impensables, où il se fait proprement engueuler par Napoléon. Alors c'est vrai, en 1809, au moment de la campagne d'Autriche, où il a un comportement qui n'est pas totalement dénué de reproches. C'est vrai, évidemment, en 1812, au moment de la campagne de Russie, quand il quitte l'armée sur un coup de tête. Bon, à diverses reprises, Napoléon lui envoie des lettres incendiaires qui d'ailleurs n'ont pas été publiées dans la correspondance officielle sous le Second Empire, parce qu'elles étaient tellement, tellement dures, on se demande même si elles ont, à certains égards, si elles ont été envoyées, tellement elles sont dures, parce qu'on a essentiellement les minutes. Mais Jérôme ne les a pas gardées, celles-là. Mais c'est assez frappant de voir le ton avec lequel Napoléon traite son frère. Par exemple, il le traite de satrape, il l'accuse d'avoir abandonné son navire, d'être un lâche. Enfin bon, il y a vraiment des propos très très durs à l'encontre de Jérôme.
Donc en 1813, c'est la fin du royaume de Westphalie et surtout en 1814, la fin de l'Empire. Et quelle va être l'attitude de Jérôme au cours de ces années 1813-1814 ?
Après la chute du royaume, c'est-à-dire à partir d'octobre 1813, il revient en France, alors que Napoléon aurait préféré qu'il reste sur le Rhin et ne pas trop se montrer. Mais il tient à revenir en France et il retrouve sa femme d'ailleurs. Et c'est à cette occasion qu'ils vont concevoir leur aîné. Il ne participe pas véritablement à la vie politique. Napoléon avait songé à lui pour gouverner Lyon, mais finalement, enfin pour commander l'armée de Lyon, mais finalement cela ne se fait pas. Et il est dans une certaine inactivité. En 1814, il part en exil, profitant des bonnes relations de sa femme qui est cousine du tsar, et donc il obtient des laissez-passer pour aller en Suisse. Et puis de Suisse, il passera en Autriche et s'installera à Trieste à l'été 1814, où naît d'ailleurs son fils aîné. Et
sa Jérôme femme, Napoléon Charles.
Voilà. Et sa femme, elle, va aussi le suivre. Ils ne partent pas en même temps et il lui arrive cet épisode assez fameux du vol de ses bijoux et de ses malles par le fameux Maubreuil qui avait servi en Westphalie et qui va s'emparer des caisses que transportait Catherine.
Et d'ailleurs, cet épisode fait découvrir une Catherine énergique qui sait ce qu'elle veut et qui va réussir à avoir gain de cause auprès de l'empereur.
Oui, auprès du roi d'abord et ensuite auprès de l'empereur. Oui, parce qu'elle va suivre. Elle refuse de se laisser déposséder, en quelque sorte. Elle suit les mâles, elle refait le chemin à l'envers jusqu'à Paris et elle demande réparation et elle fait intervenir le tsar, très mécontent que sa signature n'ait pas été respectée.
Comme vous venez de le dire, ils trouvent refuge à Trieste, c'est là que naissent leurs premiers enfants. Il se trouve que les deux autres, quelques années plus tard, naîtront aussi à Trieste. Puis viennent les 100 jours, Napoléon remonte sur son trône et Jérôme le rejoint aussitôt. On est obligé d'aller un peu vite et tout ça va finir donc à Waterloo où Jérôme a un commandement. Et donc, selon la légende, Jérôme fait preuve d'une grande bravoure. Ça lui vaut une phrase célèbre de Napoléon qui était « Mon frère, je regrette de vous avoir connu si tard ». Et vous semblez plus mitigé, vous montrez plutôt l'inexpérience de Jérôme.
Oui, alors dans l'affaire de Waterloo, il est chargé de s'emparer de la ferme d'Hougoumont qui se situe sur l'aile gauche côté français du champ de bataille, très bien défendu par les Anglais. Et il s'obstine, il s'acharne dans la prise de ce fortin et il perd beaucoup de troupes. On peut s'interroger sur cette ténacité. Alors c'est là qu'il manifeste cette bravoure, mais c'était pas forcément le choix le plus judicieux. Bon, mais là encore, les historiens sont divisés. Il n'empêche que il participe de cette bataille qui s'engage mal et se termine mal finalement, et donc il est associé à cette défaite. Encore que il parvient à regrouper une partie des troupes et il a dans les jours qui suivent, il a un rôle non négligeable pour rapatrier les troupes vers la France, ce qui fait que l'armée française n'est pas détruite. On le doit en partie à Jérôme. Il n'est pas le seul, mais il est un des responsables de ce repli en bon ordre de l'armée vers Paris.
Waterloo marque surtout donc l'échec de Napoléon et s'ouvre alors une période pour Jérôme qui va être longue, qui est la période entre les deux empires, la période de l'exil. Et vous rappelez d'ailleurs dès le départ qu'il s'agit d'un des exils les plus longs du 19e, plus long que celui de Victor Hugo, plus long bien sûr que ceux des frères de Louis XVI. Alors là aussi, nous n'avons pas le temps de nous étendre sur tous les points de cet exil. Il commence d'abord dans des conditions... ils sont presque emprisonnés par le père de Catherine, le roi de Wurtemberg. Mais c'est à Trieste après qu'ils s'établissent. C'est là que vont naître leurs deux autres enfants, la future princesse Mathilde et le futur Plomplon. Et après, Jérôme va passer 17 ans à Florence. Pendant ces années d'exil, les histoires d'argent sont omniprésentes, très complexes. Et donc en 1835, la reine Catherine meurt, ce qui pour Jérôme est un coup dur si j'ose dire, et surtout sur le plan financier puisqu'il est subversé par le frère de Catherine qui entre-temps est devenu roi de Wurtemberg, cesse. Donc Jérôme va se remarier.
Et par le tsar, il touchait aussi une pension du tsar. Oui.
Mais pendant toute cette durée de l'exil, Jérôme cherche-t-il à jouer un rôle politique ?
C'est difficile à déterminer parce que il a renoncé à tout rôle politique, mais il n'a pas renoncé à réfléchir à l'évolution politique de l'Europe. Je disais que c'était difficile à déterminer parce qu'on a surtout des correspondances et il est très méfiant. Et il sait que ces correspondances sont lues. On sait que la police autrichienne en particulier était très vigilante. Donc, dans ses lettres, il ne dit pas grand-chose. Et sa correspondance, de ce point de vue, est assez décevante, sauf avec Joseph.
Avec Joseph, qui
parce
est aux États-Unis.
Comme Joseph est aux États-Unis, la correspondance passe par des marins américains. Donc, elle échappe à la police autrichienne, puis romaine ou florentine. Et donc, là, il peut se livrer davantage. Et on voit qu'il s'intéresse à l'évolution politique, qu'il échange avec Joseph sur les affaires d'Espagne au début de la décennie 20, sur les affaires d'Italie. Mais enfin, plus généralement, il reste très prudent et on voit cette prudence au moment de la révolution de 1830. Il espère beaucoup pouvoir rentrer en France avec l'arrivée de Louis-Philippe. Il est très prudent au moment de l'insurrection dans les Romagnes qui implique ses deux neveux, dont Louis-Napoléon et son frère. Et il fait preuve de modération, il fait tout pour calmer ses neveux, pour faire en sorte que cela ne retombe pas sur la famille Bonaparte.
Vous montrez d'ailleurs très partisan finalement d'une monarchie constitutionnelle et hostile à la révolte et à la révolution.
Oui, il est très hostile à la révolution, il est très hostile à la République plus généralement et son modèle, qui restera d'ailleurs une constante de sa vie politique, son modèle finalement c'est une monarchie à l'anglaise, une monarchie constitutionnelle. Donc là, il ne va pas beaucoup bouger sur ce point et c'est aussi le point de vue qu'il défendra, si bien que d'ailleurs au moment du Second Empire, il est assez réservé vis-à-vis de la façon dont son neveu rétablit l'Empire et un Empire à ses yeux trop autoritaire à certains égards.
Surtout qu'il meurt donc en 1860 et qu'il n'assiste pas à l'ouverture libérale de Napoléon III.
Voilà, il ne verra pas la libéralisation de l'Empire et on peut penser, ça c'est un point de vue qui peut aussi être discuté, que les conversations qu'il a avec son fils Plomplon ont joué réciproquement, c'est-à-dire qu'il a sans doute influencé Plomplon, mais que Plomplon a aussi eu une influence pour l'amener vers des idées plus libérale, pour ne pas dire plus à gauche, que celle qu'il avait pu avoir au départ.
Revenons un petit retour en arrière. Finalement, Jérôme arrive à rentrer en France en octobre 1847, avant le rétablissement, enfin même avant l'accès au pouvoir de Louis-Napoléon. Il a à peine le temps de s'installer qu'en effet Louis-Napoléon accède au pouvoir. Soutient-il son neveu ?
Alors, le soutien à Louis-Napoléon est ambigu parce qu'ils ont des relations complexes, là aussi, depuis les années 30, depuis l'affaire de Rome et de l'insurrection. Il faut se rappeler aussi que Louis-Napoléon avait eu des vues sur Mathilde, la fille de Jérôme. Finalement, le mariage ne se fait pas, en partie parce que Jérôme ne supporte pas les frasques politiques de son neveu, le coup de Boulogne, d'abord de Strasbourg, puis ensuite le coup de Boulogne. Et en 1848, il voit Louis-Napoléon comme un trublion et finalement il se rallie à lui, mais il se dit que peut-être il aurait pu être un recours, que peut-être lui aussi aurait pu se présenter à l'élection présidentielle. Il n'en a sans doute ni les capacités, ni surtout l'envie, mais bon, il laisse penser qu'il aurait pu être un autre Louis-Napoléon, qu'il aurait pu rétablir l'Empire. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, son souhait le plus vif sera que son fils, puisque son fils aîné est mort en 1847, donc son héritier, Plomplon, puisse un jour accéder à l'Empire.
Il va accepter quand même tout ce que lui propose, je dirais, Louis-Napoléon, les places.
Il va accepter, il va même demander.
Voilà.
Il revendique d'être gouverneur des Invalides, ce qu'il obtient. Il va obtenir la présidence du Sénat également au moment du rétablissement, au lendemain du coup d'État, avant le rétablissement de l'Empire, parce que justement il s'oppose. Enfin, il y a des tensions à ce niveau-là. Et puis finalement, il obtient aussi le titre de maréchal. Il y a même cette aventure assez étonnante. Il réclame, puisqu'il a été rétabli dans son grade de général de division, pour pouvoir accéder au titre de maréchal, il réclame les pensions qui ne lui ont pas été versées depuis 1815. Et il y a même un vote à la Chambre sur cette affaire. Finalement, le vote n'a pas lieu, la proposition est retirée. Ce qui prouve que tout au long de sa vie, il a quand même été très intéressé par les questions financières. C'est un homme qui a toujours besoin d'argent. On ne sait pas d'ailleurs où il le trouve. Il est toujours en train de dépenser des sommes folles, d'acheter des maisons un peu partout. Mais enfin, il s'en tire toujours. Il n'a jamais fait banqueroute, en quelque sorte.
Mais donc finalement, sous le Second Empire, Vous dites qu'il est l'un des ornements du régime.
Oui, il est utilisé comme tel par Louis-Napoléon, futur Napoléon III. Par exemple, au lendemain du 2 décembre, il est là, présent, en uniforme de maréchal, aux côtés du prince-président, lorsque celui-ci sillonne les rues de Paris, après donc, le coup d'État. Donc, il est véritablement considéré comme une figure tutélaire. Il est tout de même le frère de Napoléon. Il ressemble physiquement
sa ressemblance
à Napoléon, et cette ressemblance, elle est perçue par les contemporains. Donc, il est à ce titre un ornement, dans la mesure où c'est à travers lui, c'est un peu un rappel de l'Empire, de l'épopée napoléonienne. Il se fait appeler le roi Jérôme. Donc là aussi, c'est une manière de rappeler qu'il y a eu un empire napoléonien, qu'il y a eu des royaumes vassaux, et que donc ce Jérôme avait joué un rôle important au cours du Premier Empire.
Donc le roi Jérôme s'éteint le 24 juin 1860. D'ailleurs, ses funérailles, là aussi, seront utilisées. C'est une magnifique cérémonie. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie vivement, Jacques-Olivier Boudon, d'être venu nous parler du roi Jérôme. Avez-vous quelque chose à ajouter? Un dernier mot sur le roi Jérôme?
On peut rajouter que son souhait de voir sa dynastie, finalement, pouvoir un jour accéder à l'Empire n'a pas été réalisé. Mais en revanche, du fait de la mort du prince impérial en 1879, ce sont ses descendants qui vont reprendre le flambeau, Plomplon, le prince Victor, et puis ses descendants par la suite jusqu'à nos jours. Si bien qu'aujourd'hui, la famille Napoléon, porteuse de ce flambeau, descend directement de ce roi Jérôme que nous avons évoqué aujourd'hui.
Je rappelle à nos auditeurs que vous venez de consacrer une biographie au roi Jérôme parue aux éditions Fayard. Au revoir.